L'invité de la rédaction avec Charlie Pless sur Radio Alpa.
Fin 2024, le Conseil régional des Pays de la Loire votait 82 millions d'euros de baisse de subventions de fonctionnement, en grande partie destinées aux associations. Plus d'un an après le vote, Laurent Manoury, coordinateur de l'association Culture du Cœur, revient sur les conséquences de ces décisions budgétaires. Il est membre du Conseil économique, social et environnemental des Pays de la Loire. Il a donc participé à la rédaction d'un avis sur le budget primitif 2025 de la région, un avis fortement défavorable. Le Césaire est aujourd'hui menacé de disparition, on va y revenir. Laurent Manoury, est-ce que vous pourriez dans un premier temps d'abord nous rappeler le rôle du Césaire ?
Alors le Conseil économique, social et environnemental, c'est une institution qui existe à différents niveaux. Ça existe tant au niveau national, donc ce qu'on appelle le CESE, qui est un organisme constitutionnel qui vient en appui des parlementaires et des sénateurs pour donner l'avis de la société civile sur les politiques qui sont engagées. Et depuis 1972, dans chaque région, il y a aussi un Césaire, donc le R pour régional, qui regroupe en fait trois grands corps. D'un côté, le patronat, les syndicats de salariés et puis les têtes de réseau associatives.
Et donc ce Césaire, il avait rendu un avis par rapport au budget primitif 2025. Qu'est-ce qu'il disait cet avis ?
Alors, le Césaire, de manière statutaire, donne son avis sur les orientations budgétaires de la région. Donc là, on avait eu, fin 2024, un avis très, très critique sur les risques de la politique budgétaire qui annonçait des économies à hauteur de 80 millions. Pour rappel, un budget de la région, c'est 2 milliards d'euros. Et ces économies, principalement sur le secteur associatif. Pas que, hein. On a vu que l'ensemble des secteurs sont touchés, il y a aussi des associations d'entreprises qui ont été touchées, certaines sont bien sûr préservées. Et donc l'avis était de dire, ben là peut-être qu'on va couper des financements, mais quel impact ça va avoir sur la société derrière ça? Comment, si on doit le faire en concertation et dans le dialogue, ce qui est la base d'une instance comme le Césaire, c'est de créer un échange et une vision un petit peu éclairée. Habituellement, en dehors des avis budgétaires, on réalise des études, on essaye de mesurer, d'être force de propositions et de conseils sur les élus, sachant que ça a un poids intéressant quand à la fois le patronat, les syndicats et les associations sont d'accord sur certains sujets. Donc là, l'avis était vraiment unanime pour dire qu'attention, derrière ces notions d'économie, ça aura peut-être des coûts induits, ça va peut-être provoquer du chômage, ça va peut-être provoquer un manque d'attractivité, ça va peut-être provoquer des manques de TVA. Et tout ça sont des coûts indirects à la charge de la région. Donc si on prend le secteur de la culture, par exemple, on considère qu'un euro investi a 7 à 8 euros de retour sur un territoire. Ça fait vivre aussi des hôteliers, des commerçants, des restaurateurs, tout un ensemble d'intervenants, des imprimeurs derrière. Donc là, on a un risque de fragilité de tous ces opérateurs. Et là, on voit des politiques sur lesquelles, même si les financements régionaux étaient moindres, comme par exemple les festivals, ça représente qu'une petite partie, mais en tout, ça représentait 2 millions d'aides régionales sur l'ensemble des festivals sur la région. Tout s'est concentré maintenant sur un festival porté par la région. Donc on n'a plus qu'une politique qui est de communication, un peu politique, et plus du tout d'aide aux acteurs qui font vivre les territoires les plus éloignés.
Et alors ces conséquences que vous craigniez à l'époque où vous aviez participé à rédiger cet avis, est-ce qu'elles se sont concrétisées ou pas depuis ?
Alors on essaye de mesurer l'impact. Au départ, on va dire que certaines des associations avaient un peu de trésorerie sur 2025, mais on a déjà eu un gros rétrécissement. Les pôles culturels régionaux, on a 6 pôles par filière, avaient mené une première enquête qui montrait un risque pour 4000 emplois directement menacés. Là, on est en train de mettre à jour cette enquête. Elle a été un peu prolongée, elle sortira au mois de juin. Ce qu'on voit déjà, c'est que les opérateurs structurants, les têtes de réseau associatifs comme les pôles culturels, on avait 26 personnes pour les 6 filières salariées, on n'en a plus qu'une dizaine aujourd'hui et il y a encore des remises en question sur certains des postes. Donc là, il faut savoir qu'il y a ces budgets, cette idéologie un petit peu de coupe budgétaire qui a son impact régional, mais c'est aussi dans l'air du temps au niveau national et sur d'autres dispositifs. Donc il y a une grande fragilité. On considère qu'en France aujourd'hui, une association sur quatre est menacée.
Et vous parliez d'un risque de chômage. Pourquoi ça représente quoi en fait en termes d'emploi, le monde associatif par exemple?
Alors, si on prend la région Pays de la Loire, c'est 10% des salariés. C'est quand même pas négligeable du tout. C'est peut-être le plus gros secteur. Et donc, par contre, beaucoup plus fragmenté et dispersé. Puis qui vont ouvrir dans le domaine de l'environnement, du social, de la prévention, de la culture. Il y a un champ qui est très, très vaste. Mais c'est souvent des missions qui sont des missions de service public qui sont rendues à un coût moindre parce qu'on n'est pas très bien payé dans le secteur associatif. C'est pas du tout un phénomène d'enrichissement. Il y a en plus un appui bénévole qui est considérable, hein. C'est plus de 700 000 bénévoles engagés dans le secteur associatif. Donc tout ça, ça a des répercussions et sur la vie locale et sur l'attractivité. Bah, si on n'a plus de services ou comme des MJC ou comme des centres sociaux qui sont de proximité dans les zones rurales, je pense notamment, ou comme les missions locales, bah, qu'est-ce qui se passe pour les jeunes et pour les publics qui y sont accueillis? Et donc ces moyens... qui, je rappelle, sont de l'argent public, c'est pas la propriété d'une région, hein. C'est la TVA que payent tous les habitants et les plus pauvres. Une entreprise récupère sa TVA, les particuliers non. Et donc l'orientation de ces subventions servait justement à la mise à permettre la pérennité de différentes actions publiques, de services publics qui, quand elles sont portées par des collectivités, coûtent en général beaucoup plus cher, parce qu'on n'est pas du tout sur les mêmes grilles de rémunération.
Vous disiez tout à l'heure que le CESER, ça permet une forme de dialogue avec le conseil régional. Est-ce que ce dialogue, il existe toujours? Est-ce qu'il est rompu?
Il existe ponctuellement avec certains élus. On a quand même une politesse de dialogue et d'échange avec les élus référents des différentes commissions. Maintenant, on sent bien qu'il y a une volonté de dire, voilà, on a un dogme régional qui est posé, qui doit s'imposer aux élus, mais ça, c'est une vision politique qu'on a au niveau même international. De plus en plus, on est beaucoup moins dans la concertation, dans l'échange pour construire. Et là, on rentre dans des questions très idéologiques sur ce côté-là. Je pense que la qualité, en tout cas, de dialogue et de co-construction s'est un peu perdue, ce qui, à mon avis, est fort déplorable pour les politiques en question.
Et alors, est-ce que vous craignez pour l'avenir du CESER?
Alors, c'est pas qu'on on a des fortes raisons de s'inquiéter, puisqu'il y a une loi qui est passée le 15 avril, là, dans la loi de simplification sur les entreprises, qui a inséré ce qu'on appelle les cavaliers législatifs, c'est-à-dire qui a intégré trois décisions complémentaires, une qui concerne les ZFE, les zones à faible émission, une qui concerne les ZAN, le zéro artificialisation nette, et la troisième qui concerne les CESER en décidant, malgré qu'un vote a eu lieu l'année dernière, soutenu par les parlementaires pour maintenir les CESER, de laisser les CESER au libre choix des régions, de dire bah, finalement on en veut un ou on n'en veut pas. Certains présidents de régions se sont déjà exprimés sur ce sujet. Mais ça risque de créer un grand déséquilibre, là encore, et une rupture d'égalité entre les territoires.
Pour l'instant, la présidente de région ne s'est pas prononcée justement sur ce sujet. Vous avez des craintes particulières quand même?
On a entendu, que, ça, dans les échanges entre les élus régionaux, que la région ou certaines personnes, certains élus déploraient que le CESER n'applaudisse pas à toutes les décisions, mais je dirais que ce n'est pas notre rôle, on n'est pas là pour soutenir tel ou tel parti politique, on est là pour représenter une parole de la société civile et évaluer des risques, des impacts et puis une nécessité de dialogue et d'évaluation des politiques publiques.
Mais concrètement, est-ce qu'il faut s'attendre à ce que le CESER Pays de la Loire disparaisse ou pas?
Ah bien, aujourd'hui, la première étape, il y a certains députés qui ont formulé, je crois, un ou deux recours sur la question notamment des CESER. Donc on va attendre de voir ce que produit le Conseil d'État. Et ensuite, il y aura la volonté de la présidence de la région de mettre au vote ou non, peut-être pour la prochaine session du Parlement régional. Donc ce sera en juin, la remise en question des CESER. Oui.
Merci Laurent Manoury, membre du CESER Pays de la Loire et coordinateur des Cultures du Cœur.
L'invité de la rédaction avec Charlie Pless sur Radio Alpa.